Aujourd'hui, c'est en toute impunité que les hommes utilisent le nom de Dieu pour jurer, ou pire encore, massacrent leurs semblables en son nom, et d'autres encore s'en servent pour éloigner le mauvais sort. Finalement, la plupart des gens ne vouent pas au Seigneur le respect qu'on lui doit. Mais cet état de fait ne durera pas indéfiniment, car un jour Dieu jugera toutes les nations de la terre parce qu'elles l'ont méprisé. L'apôtre Paul écrit: Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté, car ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Je continue à lire dans le second chapitre du livre de Sophonie. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. Verset 12. Les Éthiopiens descendaient de Cush, l'un des fils de Cham, lui-même fils de Noé. Ce peuple habitait dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Égypte, le Soudan et le nord de l'Éthiopie, et représentait pour les Israélites l'extrémité sud du monde païen. Les rois éthiopiens régnèrent sur l'Égypte jusqu'à leur défaite par les Assyriens. Sous le règne d'Asa, troisième roi de Juda, le royaume fut attaqué par l'Éthiopie avec 1 million d'hommes. Mais Asa invoqua l'Éternel qui lui donna une victoire éclatante sur ses ennemis. Mais quand Sophonie prononce ses oracles, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, vieille de 3 siècles. Et comme depuis ce temps les Éthiopiens n'avaient eu aucun rapport hostile avec Juda, le prophète n'a pas grand-chose à dire sur eux. Cependant, même s'il s'exprime si brièvement à leur sujet, sa déclaration est sèche et aussi brutale que le coup fatal qui leur sera porté. Ils seront jugés parce qu'ils étaient idolâtres. Quand Nabuchodonosor fit la conquête de la Palestine, il prit Jérusalem et dans la foulée attaqua l'Égypte ainsi que l'Éthiopie, car ces deux nations étaient alliées. Bien que dans sa justice Dieu soit obligé de juger le mal, il aime toutes ses créatures et veut les sauver. Dans le livre des Actes du Nouveau Testament, nous apprenons que le premier ministre de la reine éthiopienne Candace était un prosélyte juif. Il était venu adorer l'Éternel à Jérusalem, puis, alors qu'il rentrait chez lui, il a croisé le diacre Philippe qui lui a parlé de Jésus-Christ et il l'a accepté comme son sauveur. Je continue le texte de Sophonie. Que l'Éternel étende la main contre le nord, qu'il fasse périr la Syrie et dévaste Ninive pour en faire un désert aride. Verset 13. En hébreu, tous les verbes sont à l'impératif, ce qui fait de ce verset une prière du prophète. Ninive, avec son agglomération, avait une circonférence d'environ 100 kilomètres et une population d'au moins 120 000 habitants. La ville était protégée par 2 murailles et entre elles, il y avait suffisamment de terres agricoles et de pâturages pour nourrir ses habitants. La muraille intérieure avait un pourtour de 13 kilomètres et une profondeur d'à peu près 17 mètres. Pour cette raison, la ville avait la réputation d'être imprenable, ce qui rendait ses rois extrêmement arrogants. En langue acadienne, Ninive signifie maison du poisson, c'est-à-dire maison consacrée au dieu du poisson. On pourrait penser que ça ne fait pas très sérieux, mais dans le même ordre d'idées, il existe aujourd'hui les adorateurs de l'oignon. Toutes les formes d'idolâtrie sont irrationnelles. Bien que la Syrie se situait au nord-est de Juda, pour venir en Palestine, ses armées se dirigeaient d'abord vers l'ouest en passant par la région du croissant fertile et ensuite descendaient vers le sud. Ils venaient donc du nord. Si Sophonie a été bref concernant les Éthiopiens, il va s'étendre beaucoup plus longuement sur les Assyriens parce qu'ils étaient les ennemis jurés des Israélites, ayant déjà détruit le royaume des 10 tribus du nord. Le prophète prédit que le Seigneur détruira les Assyriens et transformera Ninive en désert, bien que cette capitale avait la réputation d'être imprenable, comme je l'ai déjà dit. Les Assyriens inspiraient la terreur à cause de leur cruauté. Mais une alliance entre Babylone et les Mèdes réussit à prendre Ninive. Quelques lambeaux de l'armée assyrienne survécurent à cette catastrophe et l'empire continua d'exister grâce au soutien du pharaon Necho II. Mais 7 ans plus tard, ce dernier fut mis en déroute par les armées de Babylone, ce qui sonna le glas final et définitif de l'empire assyrien. Le nouveau patron du Moyen-Orient était désormais Nabuchodonosor. Je continue le texte. Des troupeaux se coucheront au milieu de la ville, des animaux de toute espèce, le pélican et le héron habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes, ses cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Verset 14. Sophonie décrit une scène de destruction et de désolation complète. Ninive ne deviendra pas seulement une steppe ou pétron, où seront mis en pâture les bestiaux, mais un désert sec et aride, où ne séjournent que des animaux sauvages. La présence du pélican et du héron, oiseaux aquatiques fréquemment mentionnés sur les monuments assyriens, s'explique par le fait qu'une rivière traversait les ruines de Ninive. Les animaux ont remplacé les hommes et construit leur nid ou tanière dans les salles des palais démolis. Je finis le chapitre 2. La voilà donc, cette cité joyeuse qui vivait pleine d'assurance et se disait « c'est moi et rien que moi ». Comment est-elle devenue une terre ainsi désolée, un gîte pour les bêtes? Quiconque passera dans sa proximité se moquera d'elle en sifflant et en faisant des gestes de la main. Verset 15. Ceux qui passeront à côté des ruines de Ninive siffleront en signe de dérision et agiteront la main pour exprimer leur approbation et comme pour dire « elle a bien mérité ce qui lui est arrivé ». L'expression « moi » et rien que moi exprime la satisfaction hautaine de se voir sans rival, mais c'est en même temps comme un défi lancé à Dieu. Ésaïe place ces mêmes mots dans la bouche de Babylone. De plus, ce prophète utilise aussi l'arrogance du roi de Babylone comme représentatif et type emblématique de l'hubris, l'orgueil démesuré de Lucifer quand il a voulu usurper le trône de l'Éternel. Sophonie a déjà mentionné l'orgueil de 2 catégories de gens, ceux qui se détournent complètement de Dieu et les Moabites. Ce péché est peut-être bien le plus grave qui soit car il semble être à la base de tous les autres et il apparaît que seul l'orgueil peut empêcher quelqu'un sur son lit de mort d'accepter Jésus comme son sauveur. C'est en tout cas la constatation tragique que j'ai faite. Nous arrivons au 3e chapitre du livre de Sophonie, où le prophète reparle du jugement à venir de Jérusalem. Après avoir décrit le châtiment qui frappera les nations qui entourent le royaume de Juda, il va maintenant dresser la liste de ce que l'Éternel reproche à son peuple, puis prononcer le châtiment inéluctable qui le frappera. Je commence à lire. « Malheur à la rebelle, à la ville souillée, la ville tyrannique. » Verset 1. Même si Jérusalem n'est pas explicitement nommée, la suite du texte montre que c'est bien elle qui est dans le collimateur du prophète. Sophonie menace Jérusalem à cause des mœurs de ses habitants qui étaient tout aussi dissolues que celles des villes païennes. Le prophète n'essaye pas d'arrondir les angles. Et il va utiliser un vocabulaire particulièrement violent contre le peuple de Dieu parce que leur culpabilité est bien plus grande que celle des païens. En effet, les Israélites avaient le privilège de connaître le Dieu unique et vrai ainsi que ses lois morales, ce qui engageait leur responsabilité vis-à-vis de lui et des autres nations. Mais au lieu d'être une lumière à la gloire de l'Éternel, les Israélites avaient sombré dans une idolâtrie de bas étage et dans la crasse morale la plus immonde. Si l'exil babylonien a guéri les Israélites de leur idolâtrie grotesque et persistante, la corruption morale a perduré au travers des siècles. Au temps de Jésus, les responsables religieux étaient spirituellement et moralement décadents, ce qui explique pourquoi le Seigneur les a maudits et il a été envers eux encore plus dur que Sophonie. Le prophète traite Jérusalem de « rebelle ». Ce mot hébreu est très proche du nom de la montagne Morija sur laquelle Abraham avait emmené son fils Isaac pour l'offrir en holocauste à l'Éternel et sur cette montagne, le temple avait été bâti. Sophonie fait un jeu de mots pour établir un contraste entre la source de salut qu'aurait dû être Jérusalem et la triste réalité de ce qu'elle était devenue. Les trois accusations qui sont portées contre Jérusalem sont sa rébellion contre l'Éternel, sa souillure à cause des innombrables péchés commis en son sein et l'oppression cruelle qu'elle exerce contre les faibles et les pauvres, ceux qui n'ont aucun moyen de se défendre. Plus tard, le prophète Jérémie essaiera d'amener ses concitoyens à changer les mêmes comportements condamnables. Je lis le passage. « Si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Voici ce que dit l'Éternel. Exercez le droit et la justice. Délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne commettez pas de violence envers eux. Ne tuez pas des innocents dans ce lieu. » Fin de citation. La souillure de Jérusalem était évidemment morale, mais aujourd'hui, quand on parle de pollution, il s'agit des bouteilles ou des sacs en plastique qui sont omniprésents, ou bien des produits industriels qui sont déversés dans la mer ou les cours d'eau. Mais on passe sous silence la souillure morale, qui est bien plus importante que tout ce qu'on peut trouver dans la nature, et bien plus grave, car elle pollue les âmes. Jésus a dit « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. » Et parlant des Juifs et des païens, l'apôtre Paul écrit « Ils se sont tous égarés. » Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. » Fin de citation. Je continue le texte de Sophonie. Jérusalem ne m'a pas écouté et n'a pas tenu compte de mes châtiments. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel son Dieu et ne s'est pas tournée vers lui. Verset 2. Sophonie brosse à grands traits les fautes de l'ensemble des habitants du royaume. En fait, ils se sont rendus coupables de ces péchés depuis que leurs ancêtres sont sortis d'Égypte. Par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel dit plusieurs fois que les Hébreux sont un peuple au cou raide. Ici, Sophonie leur reproche de ne pas avoir écouté la voix de Dieu qui parle dans la loi et par la bouche de ses prophètes. de ne pas avoir tiré profit des avertissements que Dieu leur a donnés ou des châtiments qu'il leur a envoyés, car ils n'ont pas eu à cœur de s'humilier devant lui. Sous le règne du roi Ézéchias, 185 000 soldats assyriens campaient devant les murs de Jérusalem. Les habitants étaient terrorisés et Dieu s'est débarrassé de leurs ennemis. Mais les Israélites avaient la mémoire courte et ont vite oublié cet incident qui aurait pourtant mis fin au royaume si le roi n'avait pas intercédé et si l'Éternel n'avait pas lui-même fait périr les soldats assyriens. En troisième lieu, Sophonie reproche aux Israélites de ne pas avoir mis leur confiance en l'Éternel. Quand ils étaient en danger, ils cherchaient de l'aide humaine, faisaient alliance avec les nations païennes et priaient des idoles pour être délivrés. Seuls quelques rois de Juda, comme Josias, ont su profiter des privilèges que l'Éternel leur avait accordés et ont invoqué son nom. Tous les autres rois ont simplement ignoré l'alliance que Dieu avait faite avec eux, la rendant ainsi caduque. Par son prophète Jérémie, Dieu dit « Mais eux, ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur mauvais cœur. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Tout cela leur arrive parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais placée devant eux et ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit, mais ils se sont conduits selon les penchants de leur cœur, et ils se sont attachés au Baal que leur père leur ont fait connaître. » Fin de citation. Je continue le texte de Sophonie. Ces grands au milieu d'elles sont des lions rugissants, ces juges sont des loups du soir, qui au matin n'ont plus rien à ronger. Verset 3. Sophonie décrit ici la vie de la nation et en particulier de Jérusalem, alors que le roi Josias était encore un enfant, et donc avant qu'il ne prenne la direction du pays en main et lance sa première réforme religieuse. La loi de Moïse mentionne quatre fonctions qui correspondent à de hautes responsabilités vis-à-vis du peuple. Les dirigeants politiques, les juges, les prophètes et les prêtres. L'image des lions rugissants est utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire les actions des grands du royaume qui, au lieu de protéger le peuple, le déchirent avant de le dévorer. C'est le matin que les magistrats rendaient normalement la justice et prononçaient leur verdict. Ils devaient aussi donner l'exemple en menant une vie droite et vertueuse. Mais au lieu de cela, ils se conduisaient en rapaces accomplis. Comme de bons prédateurs, ils profitent de la nuit pour manigancer des mauvais coups, et dès le matin, l'affaire est dans le sac et leurs victimes sont dépouillées. Je continue le texte. Ces prophètes sont arrogants, portés aux trahisons. Ces prêtres ont souillé les objets sacrés, ils ont violé la loi. Verset 4. Le mot pour arrogant veut dire débordé en parlant d'un liquide en ébullition ou bien léger comme le vent. Ce sont des faux prophètes dont il est question et qui prétendent parler au nom de l'Éternel mais qui racontent n'importe quoi pour servir leurs propres intérêts. Vis-à-vis de Dieu, ce sont donc des traîtres. Pour ce qui est des prêtres, le prophète Ézéchiel explique leur faute quand il dit « Tes prêtres violent ma loi, ils profanent ce qui est saint, ils ne font aucune différence entre saint et profane, ils n'enseignent pas à discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils ignorent volontairement mes jours de sabbat, de sorte que je suis déshonoré parmi eux. » Sous l'ancienne alliance, toute l'éducation des Israélites reposait sur la distinction entre le pur et l'impur dans les domaines religieux, civil et social. Les prêtres étaient appelés à s'assurer que cette distinction soit toujours bien présente dans la conscience du peuple. Dans la loi, il est écrit que les prêtres devaient être en état de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane et ce qui est rituellement pur de ce qui est impur, capables d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a données par Moïse. Et le prophète Malachie écrit que le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais au lieu de servir Dieu, les prêtres ne respectaient plus les ordonnances de la loi et utilisaient leurs fonctions à des fins personnelles, c'est-à-dire pour se remplir les poches, tout comme les dirigeants politiques et les juges. Moi, je me dis que tout compte fait, il n'existe que deux divinités dans le monde. L'Éternel, le Dieu unique et vrai, et l'argent que Jésus appelle « Mammon ». Ce dernier est une sorte de fourre-tout dans lequel on peut également ranger la prospérité et le bien-être. À tout moment, vous et moi devons choisir qui nous voulons servir. Je continue le texte. Cependant, l'Éternel est présent dans sa ville et il s'y montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, le méchant ne connaît pas la honte. Verset 5. Au débordement d'iniquité, Sophonie oppose la parfaite sainteté de Dieu qui a fixé sa demeure à Jérusalem au milieu de son peuple. C'est là qu'il manifeste sa présence et sa justice au moyen de ceux qui sont les prophètes de l'Éternel. Tandis que les impies continuent sans honte dans leur mauvaise voie, Dieu ne cesse jamais de les avertir et s'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises actions, Dieu les jugera. C'était vrai pour le royaume de Juda, mais c'est tout aussi vrai pour vous et pour moi.